Chapitre 12. Lucienne avait gagné la bataille. Tout ce roman combiné avec tant de soin était admis. Rien n'avait paru invraisemblable, elle avait obtenu ce qu'elle voulait. L'avenir était à elle. Ce qu'elle comptait faire, c'était tout simplement recommencer sa vie. Elle trouvait tout naturel, puisqu'elle s'était trompée de route, de revenir sur ses pas et de prendre un autre chemin. L'idée de se racheter par le travail, d'expier par la solitude, la gêne, la chasteté, son existence dissipée, luxueuse et galante, lui était venue et s'était bientôt imposée à elle avec l'inflexibilité d'un devoir à accomplir. Il lui semblait, tous les obstacles s'élevant entre elle et son bonheur immédiat, eussent-ils été aplanis, qu'elle n'avait pas le droit d'être heureuse avant d'avoir été châtiée. Un tel amour n'était-il pas la récompense d'une vie parfaite, et devait-il lui échoir à elle, qui, sans hésiter, avait préféré l'infamie dorée à la misère honnête? Elle voulait mériter cette récompense. Comme les dévots qui se préparent à recevoir l'hostie sacrée par des purifications et des pénitences, elle devait purifier son âme, se perfectionner, se transformer, avant de goûter à ce bonheur qui devait faire de sa vie une perpétuelle ivresse. Pour cela, il fallait traverser de rudes souffrances. Elle le voulait ainsi, et une énergie extraordinaire lui était venue. Elle s'était jugée et condamnée, elle purgerait la condamnation sans faiblir. Le jour où elle se trouverait assez punie, où elle se pardonnerait à elle-même, elle serait parfaitement tranquille, la paix de sa conscience ne serait plus troublée. La conviction qu'elle n'avait pas le droit de renoncer à Adrien s'enfonçait de plus en plus dans son cœur. Le rendre heureux lui semblait le plus sacré des devoirs. Pourquoi aurait-il dû souffrir, lui, à cause de ses fautes à elle? N'était-ce pas souverainement injuste? La vérité lui ferait une blessure profonde et incurable. Elle devait donc le tromper pour son bonheur, mais demeurer digne de lui. Aussi, elle avait menti avec un front serein et sans plus de remords que n'en a un médecin, disant à un mourant « Vous allez bien, vous vous lèverez bientôt ». Jenny s'aperçut du changement d'humeur de Lucienne. Ses préoccupations, ses sombres rêveries avaient disparu et la jeune fille s'en réjouissait. Lucienne écoutait maintenant avec attention les jolis bavardages de sa future belle-sœur et y répondait gaiement. Jenny lui rapporta tout ce que le jeune Max lui avait dit pendant le fameux bal. « Ma chère, il est toqué, disait-elle. Tu n'as pas idée des choses baroques qu'il m'a débitées. Je me mordais les lèvres pour ne pas pouffer de rire. Par instant, il était lugubre cependant. Il me disait qu'il voudrait me voir morte afin de pouvoir venir pleurer sur ma tombe. Il décorait cette tombe, il la couvrait de glaïeuls, de tubéreuses, de lys d'eau. Il se voyait un genou dans l'herbe, sanglotant et écoutant chanter un rossignol. Puis il pensait qu'il valait peut-être mieux mourir lui-même en se jetant du haut des falaises. On le plaindrait à cause de sa grande jeunesse et les femmes soupireraient peut-être en pensant à lui. Sa plus grande préoccupation est de paraître pâle. Aussi, il met de la poudre de riz, j'en suis sûre. Je la voyais sur l'ombre de moustache qui commence à ombrager sa bouche. Et il avait du noir sur ses sourcils. Quand il a eu beaucoup dansé, ce noir coulait un peu. Faut-il être bête pour s'arranger comme cela, un homme ? Pourtant, il a une qualité, il est extrêmement bien élevé. Mais qu'est-ce que cela me fait? Ce n'est plus à lui que je pense. Comment, tu penses donc à quelqu'un? S'écria Lucienne en riant. Elle ne s'effrayait plus beaucoup des rêveries de son amie. Ne ris pas, dit Jenny, c'est très sérieux et j'ai beaucoup de chagrin. Du chagrin? Pourquoi donc? Parce que celui à qui je pense est parti. Je vois que c'est toute une histoire, dit Lucienne. Oh, une histoire bien simple, dit Jenny en hochant la tête. J'ai dansé avec un jeune officier de marine, un vrai marin celui-là. Max ne l'est pas plus que le chat, et tu sais, je raffole des marins. Il est venu m'inviter et il m'a plu tout de suite. Mince, assez grand, très élégant dans son uniforme à étroits galons d'or. Ce qui frappe à lui tout d'abord, c'est son regard. Ses yeux bleus sont plus clairs que son teint bruni par le grand air. On dirait qu'ils sont éclairés intérieurement. Ses yeux-là doivent voir dans l'obscurité au milieu des nuits de tempête. et avec cela un air doux, presque timide. « Il ne t'a pas fait la cour, alors ?»«
Pas du tout, et si dans ce bal quelqu'un l'avait frappé, ce n'était pas moi. »«
Qui était-ce donc ?»«
Tu veux le savoir ?»«
Si ce n'est pas un secret. »
« Eh bien, c'était une certaine personne en robe de crêpe bleue, avec des bleuets dans les cheveux et pâle à faire mourir le jeune Max en vie. »«
Comment, moi ?»«
Oui, mademoiselle, vous êtes ma rivale. »«
Je ne l'ai même pas vu, ce jeune homme. »«
Oh, toi, tu ne voyais rien. Je ne sais ce que tu avais ce jour-là. Mais moi qui regardais, sans en avoir l'air, le charmant marin, je voyais avec dépit qu'il ne regardait que toi. » La première fois qu'il a dansé avec moi, il m'a demandé qui tu étais. « C'est mon ami intime, lui ai-je dit. C'est sans doute pour cela qu'il est revenu m'inviter encore. Mais cette fois, je fis crouler d'un seul coup son amour naissant. « Elle va se marier, dis-je en parlant de toi. Il n'a pas été pour cela plus aimable avec moi. Il n'a plus dansé, voilà tout. Cela n'a pas empêché qu'il m'ait plu. » « Et il est parti ?» Aussitôt après le bal, au jour des cent, le flot l'a emporté.
Et tu penses à lui ?
Ah, ma chère, toute la journée !
Bah, ça passera, tes petites fantaisies s'en vont comme elles sont venues.
Tu te trompes, celle-ci pourrait bien durer longtemps, dit Jenny.
Elle appuya sa tête contre l'épaule de Lucienne.
Je suis bien malheureuse, va ! Soupira-t-elle.
Lucienne, tout en lui caressant les cheveux, se demandait si ce vagabondage de l'esprit, innocent aux yeux du monde, n'était pas en réalité aussi coupable que certaines fautes auxquelles l'âme ne prend aucune part. Pour elle, il lui semblait à présent que ses pensées n'étaient pas libres, que toutes devaient appartenir à Adrien, et que les arrêter, ne fût-ce qu'un instant sur un autre homme, serait une infidélité à son amour. Depuis le jour où elle avait aimé, elle s'était en réalité séparée de l'homme avec lequel elle vivait, elle ne lui avait plus permis de franchir le seuil de sa chambre. Il lui semblait qu'elle mourait d'horreur s'il s'approchait d'elle. Les souvenirs des jours passés l'emplissaient d'une haine folle pour cet homme inoffensif. Mais il fallait dissimuler, trouver des prétextes pour l'éloigner d'elle, sans l'irriter par trop, afin d'éviter un scandale. Il devait rester son oncle jusqu'au moment du départ. Il eût été facile à Lucienne de maintenir cette situation si, dans l'intimité, une fois le masque tombé, l'amant avait repris ses droits. Mais il n'en était pas ainsi et M. Provost, plus oncle qu'il ne le désirait, avait peine à contenir sa fureur. Une rupture était imminente et Lucienne la voulait, mais pas avant le départ. La situation était tellement tendue et si pénible pour la jeune femme que parfois elle désirait rapprocher l'instant de la séparation pour abréger ses tortures. Pourtant, les jours étaient comptés pour les deux amants. Adrien devenait de plus en plus triste et regardait fuir le temps avec le morne abattement d'un condamné à mort. Quelquefois, il essayait de la faire revenir sur sa décision, il feignait de n'y pas croire. «
C'était une épreuve, n'est-ce pas ? » disait-il. « Vous vouliez savoir si je m'y soumettrais ?» Et le jour de la séparation, vous tomberez dans mes bras en disant « Je reste ».
D'autres fois, il se laissait aller au désespoir, à la colère. Il lui reprochait de ne pas l'aimer, puisqu'elle avait la force de le faire souffrir et n'avait pas le courage de rompre pour lui un engagement insensé. Un jour qu'il nageait au large, tout près l'un de l'autre, il lui saisit les poignets brusquement.
« Écoutez, dit-il, j'ai une envie folle de vous entraîner au fond de l'eau, de vous serrer dans mes bras et de mourir avec vous. Cette mort serait moins douloureuse et moins cruelle que la mort lente à laquelle vous voulez nous condamner. »«
Oui, je veux bien, s'écria Lucienne. Mourir, mourir ensemble, je veux bien. Mais si nous vivons, nous vivrons séparés 3 ans. Il le faut. »
Et quand ils furent revenus au rivage,
« Vous m'avez donné votre parole, mon ami, lui dit-elle doucement. N'essayez pas de me la reprendre. Je ne vous la rendrai pas et je suis sûre que vous la tiendrez. » Pourtant, elle savait bien qu'elle souffrirait plus encore que lui de la séparation.
Elle n'aurait pas auprès d'elle une mère, une sœur, des amis pour lui faire supporter la vie. La solitude autour d'elle serait complète. Elle serait aussi perdue au milieu du monde qu'un naufragé sur un rocher inconnu. Rien ne surnagerait de sa vie passée, engloutie dans l'oubli. Pas une affection, pas un bon souvenir de tous ces êtres si intimes avec elle et si indifférents cependant. Elle regardait ce vide, non sans terreur, cherchant si une épave ne resterait pas de ce naufrage, une amitié sincère, désintéressée, sur laquelle elle put s'appuyer. Mais non, rien. « J'ai pourtant un père, » se disait-elle. Et quelquefois, elle songeait que peut-être elle l'avait rencontré sans le connaître. Il fallait agir seule, sans aucune aide. Parfois, ses idées se troublaient. Il lui semblait que ce qu'elle voulait accomplir était impossible, que ses projets étaient irréalisables, qu'elle bâtissait des châteaux de cartes qu'un souffle ferait crouler, et qu'il y a loin du rêve à la réalité. Mais le courage lui revenait vite. Elle se sentait assez d'énergie pour triompher de tous les obstacles. D'ailleurs, le pas le plus difficile était franchi. Adrien croyait tout ce qu'elle avait voulu lui faire croire. Rien ne semblait pouvoir le détromper. Le champ était donc libre devant elle, elle n'avait plus qu'à combattre. Les jours s'envolaient. Septembre touchait à sa fin. Des rafales froides commençaient à courir le long de la plage. La mer s'assombrissait. La première fois que l'on alluma le gaz pour le dîner de la chambre d'hôte, Adrien jeta à Lucienne un regard désespéré. C'était fini. La famille américaine s'en alla le lendemain, les vieilles missiles la suivirent de près. Adrien s'entêtait à prendre des bains, à ne pas mettre de paletot, prétendant que la température n'avait pas changé. Quelques jours radieux, comme septembre en a souvent, semblèrent leur promettre un sursis. Mais tout à coup, il se mit à pleuvoir et à venter violemment. Il fallut se rendre. Chacun fit ses malles et l'instant du départ fut fixé. « Est-ce que je ne vous verrai pas, seulement quelques minutes ?» dit le jeune homme à Lucienne la veille du jour fatal. « Est-ce que nous nous séparerons sans adieu ?»« Ce soir, quand tous seront couchés, attendez-moi, » dit Lucienne. « Où cela ?»« Ici, dans ce couloir, » dit Lucienne vivement. Et elle se sauva dans sa chambre, quelqu'un survenant. À 10 heures, tout le monde dormait. Il fallait se lever matin le lendemain pour partir et l'on s'était couché de bonne heure. Lucienne sortit sans bruit de sa chambre et alla rejoindre Adrien. « Il est impossible que nous restions dans ce couloir, » lui dit-il. « Des garçons de l'hôtel pourraient passer. Entrons chez moi. » Lucienne fit un mouvement en arrière. « Est-ce que vous n'avez pas confiance en moi ?» dit-il. « Oh, si !» répondit-elle en revenant vers lui. Ils entrèrent et il referma doucement la porte. Lucienne ne pouvait s'empêcher de songer à cette nuit où elle était venue jusqu'au seuil de cette chambre, poussée par une résolution qui lui semblait maintenant odieuse et dont le souvenir seul la faisait rougir. Son âme était tellement débarrassée de ses anciennes impuretés que la jeune femme se sentait aussi troublée et intimidée en se trouvant dans la chambre d'un jeune homme que si elle eût été vraiment innocente et sans reproche. Les femmes ont de ces puissances d'oubli. Ceux qu'elles n'aiment plus cessent d'exister. Les fautes qu'elles voudraient n'avoir pas commises sont effacées de leur cœur comme d'une ardoise sur laquelle on passe l'éponge. Lucienne jeta un coup d'œil autour de cette pièce qu'il avait habitée 3 mois et qu'elle avait eu bien souvent envie de voir. C'était la chambre gaie et banale des hôtels de Villedeau. Les meubles disparaissaient sous des housses à volants en perse à grandes fleurs. Des rideaux pareils aux fenêtres et aux lits de noyer, rehaussés de filets noirs, à terre une moquette sombre et sur une table ovale un tapis de reps brun avec un ramage bouton d'or. Lucienne embrassa tout d'un regard. Elle vit la malle-plate déjà fermée et la valise de cuir rouge ouverte en deux sur le tapis, les pantoufles de maroquin vert posées près du lit, sur la toilette, la petite boîte d'argent niellée où il mettait ses cigarettes, le flacon enfermant le parfum qui lui était familier. 2 bougies brûlées dans des flambeaux argentés. Adrien fit rouler un fauteuil près de la table. « C'est très grave ce que je fais là !» dit Lucienne en se laissant tomber dans le fauteuil. à une pareille heure dans votre chambre ?» Adrien s'agenouilla près d'elle. « Il eût été plus grave encore de risquer de nous laisser surprendre, dit-il. D'ailleurs, ne suis-je pas votre fiancé ? N'aurais-je pas un jour le droit de franchir le seuil de votre chambre ? Hélas, que de jours et que de nuits me séparent encore de cet instant » ajouta-t-il en appuyant son front sur les mains de Lucienne. « La certitude que cet instant viendra cependant ne suffira-t-elle pas à nous faire prendre en patience les plus rudes épreuves ? S'il allait ne jamais venir, si quelque chose survenait, si l'un de nous mourait ? Nous sommes jeunes et forts tous deux, nous ne mourrons pas, dit-elle. Si vous êtes aussi sûr de votre cœur que je suis sûr du mien, nous n'avons rien à craindre. L'obstacle à notre bonheur ne pourrait venir que de votre oubli. » « Tais-toi, méchante, dit-il, je te défends de douter de moi. Rien ne viendra me distraire de mon amour. Je vis en province, calme, retirée, je pourrais m'absorber complètement dans mes souvenirs. Tandis que toi, à Paris, soumise à toutes sortes d'obligations mondaines, tu auras bien moins de temps à donner à ton amour. De plus, belle comme tu l'es, tu seras courtisée, et je suis jaloux en pensant que d'autres t'admireront, que d'autres te diront peut-être les mots que je t'ai dits. Je vous jure, Adrien, que pendant ces 3 années, je vivrai dans une retraite absolue. Je quitterai Paris. Où irez-vous ? Ne puis-je le savoir ? À Venise, peut-être. Voici 11 heures qui sonnent, ajouta-t-elle en écoutant le timbre de la pendule. « Mon Dieu, est-ce donc vraiment notre dernière entrevue ?» dit Adrien. « Est-ce bien possible ? Demain, tout sera fini. Je n'entendrai plus votre voix. Je ne vous verrai plus. C'était si doux, cette vie intime sous le même toit, ces repas pris en commun, ces rencontres de chaque instant. C'était presque la vie de famille déjà. Puis tout à coup, plus rien. La solitude, la mort. Vous ne voulez donc pas faire grâce ?» Lucienne secouait la tête. Elle essayait de sourire, elle se retenait de pleurer. « Vous m'aviez promis votre photographie, » dit-elle après quelques instants de silence. « La voici, » dit Adrien en prenant dans sa poche un petit carnet de maroquin. « Jenny l'avait apporté ici, fort heureusement, et elle a bien voulu me la donner. La voici dans la gaine que ma sœur lui a fait faire. » Lucienne reçut le portrait avec un cri de joie. « Et moi, je n'aurai rien, » dit le jeune homme. « Je vous enverrai aussi dans quelques jours ma photographie, c'est convenu. Nous n'oublions rien, voyons. Ah, votre adresse !» Adrien tira un petit crayon d'or attaché à la chaîne de sa montre et écrivit sur une carte de visite « Cours Boieldieu à Rouen. » « Je n'aurai jamais de vos nouvelles. » « Nous ne nous écrirons qu'en cas de maladie grave, » dit Lucienne. « Où devrais-je adresser mes lettres ?»« À Paris, poste restante. Elles me parviendront partout où je serai. » »« Ainsi, j'ignorerai même en quel lieu du monde vous respirez, » dit Adrien. « Ah, je crois faire un mauvais rêve. » »« Le réveil sera si doux, » dit Lucienne en passant le doigt sur le front du jeune homme pour effacer un pli qui lui contractait les sourcils. « Laissez-moi vous regarder au moins pour bien longtemps, » dit-il. Adrien croisa ses mains derrière la taille de Lucienne et, à genoux devant elle, il la contempla en silence. Elle aussi s'abîmait dans la contemplation de ce beau visage, de ses yeux clairs, dans le rayonnement noir des cils et qui lui semblait avoir quelque chose de surhumain. Tandis que lui admirait les lèvres pourprées, les cheveux fauves et les yeux de velours noir de sa bien-aimée, en songeant à Aphrodite, elle le comparait intérieurement à l'archange armé du glaive qui terrasse le démon. Un engourdissement, une langueur dangereuse les envahissaient tous deux, l'étreinte qui les unissait se resserrait de plus en plus, ils laissaient fuir le temps sans y prendre garde. Cependant, quand minuit sonna, Lucienne fit un mouvement pour se lever. « Non, non !» s'écria Adrien. « Reste encore !» Il lui avait saisi les mains et les lui serrait en la regardant d'une façon étrange. Il semblait perdre la sensation de lui-même et elle vit passer comme un brouillard sur la limpidité de ses prunelles. Elle se leva d'un mouvement brusque, mais il fut debout aussitôt qu'elle et il l'attira avec emportement contre sa poitrine. Non, tu ne partiras pas, lui dit-il, pâle et les dents serrées. Ces bras qui se ferment sur toi ne se rouvriront plus.
Adrien, est-ce bien vous ? Murmura Lucienne en essayant de se dégager.
Les lèvres du jeune homme étouffèrent ses paroles. Lucienne sentait sa raison lui échapper, l'idée de lutter faiblissait dans son esprit. Cependant, instinctivement, elle se défendait encore, presque épouvantée de cette étreinte qui l'étouffait, de ce baiser qui mordait. Mais Adrien, brusquement, la repoussa loin de lui.
« Va-t'en, va-t'en » lui cria-t-il.
Lucienne chancela un instant, puis elle ouvrit la porte d'un mouvement fébrile et s'enfuit. Elle courut jusqu'à sa chambre, y entra précipitamment et referma la porte. Mais alors, elle poussa un cri d'horreur. M. Provost était là, assis sur le canapé, la regardant d'un air goguenard. C'était donc fatal, quand elle oubliait le passé, quand l'ivresse de son amour était à son comble, toujours cet homme s'avançait et la rejetait brutalement dans la réalité. « Enfin, dit-il, vous voilà, je commençais à désespérer de vous voir sortir de cette chambre. Il paraît que votre nouvel amant vous plaît mieux que l'ancien dont vous avez fait un oncle de comédie. Cela se conçoit. » Lucienne restait appuyée contre la porte comme pétrifiée. Sous l'émotion de cet adieu poignant, toute frémissante encore de ce premier baiser du seul homme qu'elle eût aimé, avoir à subir une scène de jalousie banale, écouter des injures, des reproches, c'était trop, elle ne se sentait pas la force de répondre. Le vieillard semblait prendre plaisir à voir ce trouble auquel il attribuait une autre cause. « Cela vous contrarie, n'est-ce pas, reprit-il, que j'ai découvert vos petites infamies ? Voilà, je ne suis pas aussi bête qu'on veut bien le croire. Depuis longtemps, je vous guettais. Je vous ai entendu lui donner un rendez-vous hier, et je vous ai attendu pour que vous ne puissiez pas nier. » Il s'était levé et se promenait de long en large, s'excitant lui-même à la colère. « C'était très commode, j'en conviens, continua-t-il. On réservait ses faveurs aux jeunes, aux vieux, on gardait les migraines, les courbatures, les maux de nerfs. Cependant, il était encore assez bon pour payer les dépenses et pour faire l'oncle. « Ah ça, est-ce que ce monsieur s'imagine avoir séduit ma nièce ? Si je le forçais à vous épouser, hein ? Quelle jolie vengeance !»« Finissons-en, dit Lucienne, que cette dernière injure tira de sa torpeur. Je n'ai jamais eu le projet de vous tromper. Mon intention était d'avoir dès demain une explication avec vous et de vous quitter le soir même. Nous avons conclu ensemble un marché et nous en avons tous deux rempli les conditions. » Mais j'ai, comme vous, la faculté de le rompre, et je le romps. Je tenais seulement à éviter un scandale. J'espère que vous serez aussi d'assez bonne compagnie pour ne pas vous donner un spectacle. Maintenant, je suis libre, et vous êtes libre. Vous pouvez vous retirer. » Lucienne avait en parlant une telle fermeté, une telle gravité et une vibration si méprisante dans la voix, que M. Provost, qui s'attendait à des cris et à des injures, demeura tout interdit. Il n'avait nullement songé à se séparer de Lucienne. Rompre une habitude déjà ancienne lui eût été pénible. De plus, parmi les femmes à la mode, Lucienne était la plus séduisante, et il était flatté d'être son amant en titre. Il savait bien qu'il ne pouvait pas exiger d'elle une fidélité d'épouse. Cependant, elle ne l'avait jusqu'à ce jour jamais trompé, non par attachement pour lui, mais par indifférence pour d'autres. Et il était tout disposé à ne pas lui tenir rigueur. Il voulait tout simplement l'effrayer un peu, prendre plus d'autorité sur elle et l'amener à être plus aimable pour lui. Enfin, il voulait lui faire une scène comme c'était son droit. Mais la quitter, cela le contrariait beaucoup. « Il te fait donc des propositions bien magnifiques, que tu abandonnes sans réfléchir une position superbe, » dit-il en écarquillant les yeux. Lucienne eut un sourire douloureux. « Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre, » dit-elle. « Vous devriez cependant sentir qu'un abîme s'est creusé entre nous. » « Je crois que maintenant tu exagères les choses, » dit-il en se mordillant les ongles. « Une petite fantaisie... Qui sait, j'ai peut-être les miennes aussi. Et si tu veux... « Assez !» s'écria Lucienne, dont le visage s'empourpra. « Sortez d'ici !» Elle ouvrit la porte toute grande et la lui indiqua d'un geste impérieux. M. Provost avança la lèvre inférieure, courba le dos, chercha quelque chose à dire. Mais ne trouvant rien, il salua ironiquement Lucienne et s'en alla fort penaud.